expression, c'est vraiment dans notre corporéité que cela s'exprime. Et je vois que lorsqu'on met plus qu'une conversation au point, mais qu'on permet à des personnes de véritablement accoucher de ce qui advient et qu'on pose des gestes très très concrets pour cet accouchement-là, je vois qu'il y a une véritable paix, un réel apaisement.
Et vous parlez de quels gestes, par exemple ?
Mais on peut très très bien, et ça c'est quelque chose à quoi j'accorde beaucoup beaucoup d'importance, se trouver devant une démarche rituelle où je vais toucher la personne à partir d'une onction, où je vais apporter une lumière, où il va y avoir un décor floral qui permettra réellement de s'exprimer, où la personne pourra apporter une photo et commenter cette photo et prolonger la conversation. Il y a de multiples chemins qui réellement, je pense, apportent un apaisement, apporte une paix, j'y crois beaucoup. Et j'insiste fortement sur le fait que ce n'est pas nécessairement religieux. Quand nous parlons ici de rituel, c'est un rituel vraiment au sens anthropologique du terme, qui concerne toutes les convictions. J'ai la chance, et je dirais même le bonheur, de ne pas travailler que dans des hôpitaux chrétiens, mais aussi dans des milieux laïcs. Les questions sont les mêmes, les interrogations spirituelles sont les mêmes, les demandes rituelles sont les mêmes. Et c'est une chance, je pense.
Caroline Vanos, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais dire que ce que les gens souvent ont besoin de dire à leurs proches, c'est de dire merci. Donc, comme de dire à l'autre, je peux partir parce que j'ai la dette que j'ai vis-à-vis de toi. Je te dis merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et souvent, ça va avec pardon, parce qu'il n'y a pas eu que du très bon entre nous. Mais c'est comme effectivement mettre la paix dans les relations les plus importantes.
Mmh. Michel Dupuis, je vous voyais également approuver lorsqu'on parlait de rituels quasi anthropologiques. Vous aviez quelque chose à ajouter à ce sujet ?
C'est vraiment très très important parce qu'on est très loin d'intellectualiser les processus, comme si c'était une affaire d'intelligence ou de raison au sens habituel du terme. C'est pourquoi tu parlais de cerveau, évidemment. Oui. Non, c'est bien le corps, c'est bien les entrailles, c'est vraiment la corporéité. D'où l'importance de votre métier, qui, quand vous parliez de traiter la dépouille, en fait, c'est choses très très concrètes. Moi, je suis frappé que dans l'art religieux, par exemple, un thème qui a eu beaucoup beaucoup de succès, c'est quand même la descente de croix. Hein, je trouve ça extrêmement intéressant. Marguerite Yourcenar a écrit des pages extraordinaires d'ailleurs sur le sujet, parce que c'est bien de corps qu'il s'agit. Hein, et c'est ça qui fait la dimension tout à fait particulière de nos morts à nous, les humains, c'est que manifestement le corps y a une place tout à fait majeure. Il est en train de se décomposer. Simone Veil, la philosophe française, pas la ministre, a inventé un mot pour dire ça. Quand elle pensait à une forme de vieillissement, elle parlait de décréation, comme s'il fallait tout à coup disparaître progressivement pour être en état de mourir. Un tout petit peu l'inverse de ce qui serait la création en obstétrique. Il faudrait être suffisamment prêt pour arriver. Là, il faut se préparer pour partir. Et je pense maintenant à Winnicott, qui est un pédiatre assez connu, qui s'est occupé beaucoup de la psychanalyse des enfants, et qui, à la fin de sa vie, il n'était pas en très bonne santé, disait c'est curieux, j'ai l'impression de redevenir tout petit, de devoir devenir tout petit pour réussir le passage. Vous sentez que dans ces choses-là, il est question beaucoup de corps, de peau à peau, de gestes, de rites, mais dans un sens extrêmement profond, bien entendu, pas du tout superficiel. Mais très loin d'une espèce de blabla ou de raisonnement pseudo-philosophique qui donnerait des raisons d'espérer, des raisons de croire ou ce genre de choses. On n'est pas là-dedans. On est dans un moment, probablement, d'accouchement, en tout cas de passage. Et un passage, ça se fait avec un corps, ça se fait pas avec la tête.
Gabriel Ringlet.
Un tout petit mot de prolongation de ce que dit Michel Dupuis. Quand nous avons fêté un anniversaire en soins palliatifs avec Corinne Van il y a quelques années, j'avais été très très marqué par des infirmiers qui transportaient le corps, la dépouille, jusqu'à la morgue et qui donnaient un témoignage exceptionnel du fait qu'ils considéraient que cette démarche, elle était très grande, elle était très belle et qu'ils voulaient absolument que la famille soit reçue dans les meilleures conditions qui soient. Et je m'étais dit, ça c'est remarquable, parce qu'on parle tout le temps des médecins, on parle des accompagnants, on parle du spirituel, mais là aussi je rejoins le métier de mon voisin entrepreneur de pompes funèbres, c'est tout à fait déterminant. Le respect que l'on accorde à la dépouille est un des éléments qui fait qu'une civilisation est grande et respectueuse ou qu'au contraire, elle pose question.
Midi 29, on va se retrouver dans un instant pour le rappel des titres et on poursuit ce débat juste après.
Rejoignez le débat via Facebook et Twitter et 02 737 3707.
Midi 13h.
Débat première.
Apprenez à combiner sur informazout.be.
Pour vous chauffer, vous pouvez combiner le mazout avec...
Une piscine chauffée. On met un coquillage bleu dans le living. On remplit ça avec de l'eau chaude. Et puis on se met tous dedans. Mon mari, moi, et notre petite Marie. C'est notre bain-marie à nous.
Original, mais combinez plutôt le mazout avec les énergies renouvelables. Découvrez votre combinaison parfaite sur informazout.be.
Informazout, chaleur innovante, chaleur d'avenir.
Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui mangent des kiwis à la pelle. Alors que c'est quand même plus facile avec une cuillère. Voilà pourquoi jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, nos délicieux kiwis sont en 4 plus 4 gratuits.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
La première.
L'esprit clair. Le rappel des titres, c'est avec Camille Toussaint. Bonjour.
Bonjour à tous. Une centaine de vols à nouveau annulés ce matin à l'aéroport de Bruxelles National. Et pourtant, un préaccord a été conclu entre les syndicats et la direction du bagagiste Avia Partner. Depuis ce matin, on attend la réaction des travailleurs concernant ce projet d'accord. En attendant, 1500 bagages sont encore bloqués. Dans le journal, nous irons à la rencontre des voyageurs qui sont nombreux à essayer de les récupérer. En Espagne, la polémique continue autour de l'exhumation du dictateur Franco. En effet, cette décision a été prise en août dernier par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Ce dernier veut envoyer une image forte en sortant la dépouille de Franco de la basilique d'un monument national dans laquelle elle repose. Mais l'opération s'avère être un véritable casse-tête. Madrid doit notamment trouver un terrain d'entente avec la famille du dictateur. Enfin en sport, il y aura du football encore au programme ce soir pour la 13e journée de Pro League. Eupen rencontrera le Cercle de Bruges. Il y aura aussi Antwerp face à Genk et Courtrai face à Waasland Beveren. Tous ces matchs commenceront ce soir à 20h30. Voilà pour ce rappel des titres. Prochain rendez-vous de l'info, c'est donc à 13h. À tout de suite.
Midi 13h.
Débat première. Marie Benkutsem.
Midi 32, semaine de Toussaint, c'est l'occasion. On vous propose un débat un peu décalé ce midi. Quel est notre rapport à la mort? Jean-Philippe Altenlo, je me tourne vers vous. Vous êtes entrepreneur de pompes funèbres, on l'a dit. Nous parlions de l'importance des rituels, juste avant la pause. Les familles que vous rencontrez pour organiser les enterrements appartiennent à différents cultes. Est-ce que la spiritualité, vous le sentez, est essentielle pour les familles? Est-ce que vous sentez qu'il y a là quelque chose de rassurant, de cadrant, qui permet en quelque sorte de relier ceux qui restent?
Relié est le terme d'ailleurs, puisque ce sont les rites qui font que les êtres, les proches se retrouvent autour d'un événement, autour d'une célébration. Alors effectivement, cette spiritualité existe autant chez les personnes chrétiennes, religieuses, catholiques, que chez les personnes non-croyantes, laïques, on les appellera comme on veut, il y a ce besoin de se retrouver pour ce rite du passage, puisque, on l'a dit ici autour de cette table, il s'agit également d'un passage, d'un accouchement, d'un autre type, et ce besoin se fait sentir à tous les niveaux philosophiques ou religieux. Et mon voisin Gabriel Ringlet a d'ailleurs évoqué ce sujet très important en Belgique, à Bruxelles en particulier, qui est l'ouverture des églises, des lieux de culte catholique aux personnes non croyantes, ce qu'on appelle des funérailles civiles. Et c'est très important parce que il y a chez nous un problème de lieu, un problème de place. Des personnes qui ne sont pas croyantes et qui souhaitent se retrouver dans un lieu inspirant se retrouvent soit au crématorium, mais dans les cas de funérailles, toutes les personnes ne se font pas incinérer. Et donc, pourquoi ne pas ouvrir des lieux de culte pour des cérémonies civiles? Personnellement, avec bien évidemment la complicité de prêtres, de curés de paroisse, je suis parvenu à organiser des funérailles quasi civiles dans une église. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un accord entre les deux parties, si je puis dire. Il faut que chaque partie fasse un pas vers l'autre. C'est très important. Il faut travailler la main dans la main, sinon on peut pas y arriver. Mais c'est extrêmement important cette question. Et je voudrais rebondir sur ce que disait sur ce que posait comme question l'auditrice de tout à l'heure à propos de l'amour. Donc c'est concernant votre activité d'accompagner les personnes qui décident de se faire euthanasier, c'est cette notion d'amour qui arrive à ce moment-là. Et moi, ce qui me touche profondément dans l'activité que moi j'exerce, donc c'est-à-dire après la mort, c'est la manière dont les vivants rendent hommage à leur chair disparue, comme on dit. Et je suis souvent bouleversé par des témoignages d'amour qui s'expriment à ce moment-là, de la part de proches, d'amis, famille, enfants, parents.
Vous parliez il y a un instant de crémation. J'ai envie de vous demander si vous constatez, depuis le temps que vous travaillez dans le milieu, si vous constatez une évolution des pratiques, justement, rituelles autour de la mort, de l'enterrement ou crémation, puisqu'on dit que ça a plus de succès qu'avant.
Certes, la crémation est un mode de funérailles qui gagne du terrain. Régulièrement, j'ai pas d'avis là-dessus parce que bien évidemment il s'agit avant tout de respecter la volonté d'une personne pour autant qu'elle ait pu s'exprimer. Hein. Moi, je trouve ça très important. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il est très important de donner des instructions à ses proches, quel que soit. Quel que soit l'âge, hein, parce qu'on peut. Moi, j'ai un de mes frères est décédé de manière tout à fait inattendue d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 36 ans, et on s'est retrouvé confronté à une interrogation très importante. La première, la plus évidente, c'est inhumation ou crémation. Donc c'est toujours la première question qu'on pose. Est-ce que la personne défunte souhaitait être inhumée ou incinérée? Eh bien, bien souvent, dans la plupart des cas, on est confronté à une ignorance. Donc on ne sait pas.
Parce
qu'on n'en parle pas. Et moi, je trouve important d'en parler, quel que soit l'âge. Moi, c'est un sujet dont je parle bien volontiers avec mes propres enfants. Bon, il y a peut-être une déformation professionnelle,
enfin, sans doute,
peut-être plus facilement. Mais je trouve ça important d'en parler dans toutes les familles, dans tous les foyers.
Michel Dupuis, vous êtes philosophe spécialisé sur les questions de bioéthique, on le rappelle. On l'a un petit peu évoqué, une grande question qui touche à la mort dans ce domaine, c'est évidemment celle de l'euthanasie. Elle se réinvite d'ailleurs régulièrement dans le débat. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que l'euthanasie, c'est finalement une façon de se réapproprier sa mort et donc sa fin de vie aussi?
C'est un phénomène extrêmement complexe. On peut le lire de ce côté-là en parlant de l'autonomie des personnes et de la maîtrise qu'elles peuvent avoir sur leur vie, sur leur fin de vie, sur les conditions de cette fin de vie. C'est une lecture possible. Une autre lecture, c'est aussi de rappeler que la mort est quand même associé à de la souffrance, à de la douleur, que cette souffrance et douleur n'ont pas toujours pu avoir des réponses adéquates, soit parce qu'on ne la connaissait pas, parce qu'on n'avait pas les technologies ou les molécules qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, dans ce sens-là, l'euthanasie, ça pourrait être aussi une espèce de fuite, parce qu'on ne souhaite pas mourir. C'est pas tellement qu'on souhaite avoir la maîtrise sur la fin de sa vie, mais c'est surtout qu'on veut éviter un certain nombre de situations particulièrement pénibles, tout à fait désagréables. Et je pense que le savoir clinique, le savoir-faire et le savoir-être clinique permet justement d'accueillir cette demande d'euthanasie et de faire la distinction entre ce qui est une volonté qu'on pourrait dire presque positive, hein, sur le souci que je pourrais avoir de contrôler la fin de ma vie, et puis autre chose qui est de pouvoir m'enlever des raisons d'avoir peur de telle ou telle souffrance, d'avoir l'impression d'être abandonné par une équipe. Et là, il y a une forme de discernement clinique qui me paraît très très important et qui va changer changer complètement le statut éthique de l'euthanasie. Hein. Mmh. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément les idées tout à fait claires. C'est assez naturel. On en parle beaucoup, c'est une très bonne chose, mais je crois que nous avons vraiment besoin d'en parler davantage, et nous avons besoin que les professionnels des soins de santé en général, et a fortiori dans les équipes de soins palliatifs, que ces professionnels puissent nous rappeler qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à entendre beaucoup de choses, qu'ils sont prêts à l'accompagnement, qu'ils ne pratiquent pas l'abandon thérapeutique, et que donc l'euthanasie n'est jamais une forme d'abandon, parce qu'après tout, on pourrait considérer que l'euthanasie est une forme d'abandon. Encore un tout petit mot sur un phénomène qui m'inquiète un peu, dans une société comme la nôtre qui est quand même assez largement individualiste, il se pourrait qu'en vieillissant, je me sente de plus en plus, moi comme individu, une charge pour mes proches, y compris pour mes enfants, et on voit bien une dérive qui me paraît extrêmement dangereuse dans ce domaine, de la même manière que je vois une dérive qui m'inquiète beaucoup sur ce qu'on appelle aujourd'hui les demandes d'euthanasie par lassitude de vie. Je pourrais me sentir un jour fatigué de vivre. Est-ce que c'est mon autonomie qui me permet de dire voilà, j'ai vécu suffisamment longtemps et puis j'en reste là. On est très loin d'une indication qui était l'indication de je ne souhaite pas mourir dans d'immenses douleurs. Je suis désolé de venir avec ces considérations qui sont un tout petit peu théoriques, mais qui me paraissent rejoindre
mais qui permettent en tout cas de
que voilà. Vous connaissez dans les services.
Alors justement, Caroline Vanos, peut-être une réaction sur cette question de l'euthanasie. J'imagine que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté régulièrement.
Oui, donc il y a énormément de demandes d'euthanasie. Donc il y a beaucoup de personnes qui, sachant qu'elles vont mourir, ne veulent pas mourir dans des mauvaises conditions. Ont peur de souffrir, que ce soit de façon physique ou bien de façon psychologique. Ils ont peur, comme ils disent, de voir mes enfants pleurer, je ne veux pas faire souffrir les autres. Donc, beaucoup de gens demandent l'euthanasie. Et donc, ce qui est important, effectivement, c'est d'écouter qu'est-ce qui est derrière, hein, quelle est la souffrance qui est derrière. Et puis, de les accompagner. Maintenant, nous avons beaucoup moins d'actes d'euthanasie. Mais ce qui est important, c'est d'entendre ces demandes et de cheminer avec les personnes. Et ça demande beaucoup de temps et de travail. Et nos équipes sont quand même, c'est très prenant. Quand il y a une demande d'euthanasie dans les équipes, c'est beaucoup de temps. On sait qu'on va devoir y confronter, enfin, y apporter beaucoup de temps. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, c'est très important. Et les demandes sont à domicile comme en milieu hospitalier. Alors, il y a effectivement, comme disait Michel Dupuis, le fait de ne pas vouloir souffrir, avoir peur de souffrir. Et il y a aussi, effectivement, cette question de laisser une belle image de soi, ne pas montrer une image dégradée à ses proches, et en particulier aux plus jeunes. Mmh. Hein. Il y a effectivement, quand même dans nos sociétés, l'idée que on doit être jeune et beau, et donc quand on devient
et ça va jusque
âgé
là.
Et avec au fond de son lit un peu amaigri, on se dit est-ce que les autres vont encore m'aimer comme ça, mm-hmm. Est-ce que je vais être encore visitée, c'est quand même une vraie question. Et même sur la question de l'inhumation ou de l'incinération, parfois, moi, j'entends des personnes qui disent non, mais moi, je veux la crémation parce que comme ça, je vais déranger personne. Ils seront pas obligés d'aller sur ma tombe puisqu'il y aura pas de tombe. Et je suis quand même un peu effrayée de ça parce que quand même, je me dis mais on n'a même plus de traces quoi. Et donc je dis mais du coup, vous ne pourrez même plus aller sur les tombes. Alors. C'est vrai qu'il ne faut pas y aller tous les jours, mais quand même, une fois par an, se souvenir que je viens de là, j'ai des racines.
Enfin,
j'ai des racines. Je trouve que c'est... parfois, ce choix de la crémation est un choix pour ne pas déranger, pour ne pas payer, pour ne pas... Enfin, voilà. Mmh.
Je voudrais revenir sur ce que Jean-Philippe Altheno disait tout à l'heure au sujet de l'importance de préparer tout ce qui est enterrement, etc. Une autre manière de se réapproprier en quelque sorte cette fin de vie, Caroline Vanos, c'est ce qu'on appelle le projet de soins anticipés personnalisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ?
Oui, donc en français on appelle ça aussi le PSPA, plan de soins anticipés personnalisés. Donc l'idée c'est réfléchir plus tôt à plus tard, hein. L'idée, c'est on va devoir prendre des décisions médicales au fur et à mesure où la maladie fait son effet. Et pour éviter de les prendre en urgence, on y réfléchit avant. On y réfléchit pour soi-même, on y réfléchit avec ses proches et on y réfléchit avec son médecin traitant. Et donc, on met en place un projet de soins en disant, voilà, s'il m'arrive ça, voilà ce que je veux qu'on fasse et qu'on ne fasse pas. Est-ce qu'on me réanime? Est-ce qu'on ne me réanime pas? Est-ce qu'on met un tuyau? Voilà. Donc, on fait ces réflexions à l'avance, en particulier, par exemple, quand on rentre en maison de repos et de soins, parce que les gens savent bien que c'est souvent la dernière étape, et qu'en urgence, ben, si on n'est pas bien, le médecin va devoir décider et on ne va pas savoir appeler un enfant.
Mais est-ce que c'est facile d'anticiper à ce point? On parlait tout à l'heure du fait qu'on était un peu désemparé par la manière dont on allait réagir à notre propre mort. Est-ce que c'est facile de se projeter comme ça au moment de sa mort pour décider qu'est-ce qui doit être mis en place médicalement?
Non, mais là, c'est pas tellement la mort, c'est plutôt la fin de vie qu'on anticipe.
Mais même dans ce cas-là, on ne sait pas comment on pourrait réagir face aux souffrances.
Oui, mais quand même, on a autour de soi des tas d'exemples. Hein. On sait bien que si on tombe en rue, on va se retrouver aux urgences, et si on n'est pas bien, on va se retrouver en réanimation.